Chers frères et sœurs, ce jour est un jour de fête et c'est l'œuvre du Seigneur. C'est un jour pour nous réjouir, c'est un jour pour être dans l'allégresse, c'est un jour pour dire que l'amour n'a pas de fin. Et nous le dirons tout spécialement à l'occasion de la bénédiction que Claude et Richard Cadou recevront tout à l'heure sur leur couple. Et c'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici dans notre maison. Oui, frères et sœurs, c'est un jour d'allégresse et c'est un jour où nous recevons tout spécialement la grâce et la paix. Oui, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, levons-nous pour chanter Dieu avec le premier répond indiqué dans le livret liturgique qui figure au début du psautier français « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux ». Oui, combien est précieuse ta bonté, ô Éternel. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Et ils se rassasient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et toi, tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Toujours dans le psautier français, mais cette fois au psaume 8, poursuivons notre louange avec les strophes 1, 3 et 4 du psaume 8. Prenons place. Votre rencontre, Richard et Claude, est notamment le fruit d'une traversée de textes bibliques. Et parmi ces textes bibliques que vous avez explorés avec soin, il y a ces versets du Deutéronome, et ils nous tiendront lieu d'expression de la volonté de Dieu ce matin. Voici les mots qui résonnent dans la toute fin de ce livre du Deutéronome. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous nous recueillons dans la prière. Seigneur, nous avons faim. Seigneur, nous avons soif. Non pas une faim de pain ni une soif d'eau. Ce sont plutôt les raisons de vivre qui nous manquent. Qui nous les donnera ? D'une mer à l'autre, d'une extrémité à l'autre extrémité de la terre, nous cherchons la parole de Dieu, et comme les prophètes, nous ne la trouvons pas. « Cherchez-moi et vous vivrez », nous disais-tu. Mais où te chercher ? Nous ne savons pas où tu es. Comment trouver le chemin ? Amen. Encore dans le livre du Deutéronome, quelques paroles qui, justement, peuvent être comme des éléments de réponse à notre prière. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ?» Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Afin que tu puisses le mettre en pratique. Frères et sœurs, cette proximité de l'espérance divine peut être une source de joie, et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons et nous exprimons notre reconnaissance par le chant indiqué dans notre livret liturgique. Chers amis, nous sommes donc réunis à l'occasion de notre culte dominical dans la joie et dans une reconnaissance toute particulière parce que vous êtes là, Richard et Claude, et que par votre présence, vous attestez à la fois cette filiation, je dirais, qu'il y a entre cette communauté et ton parcours, Richard, un parcours qui t'a conduit jusqu'à être pasteur à Vernoux, dans ce vivarais dont nous avons de nombreux représentants parmi nous ce matin, et que chacun, chacune se sente particulièrement accueilli ici dans cet oratoire du Louvre. C'est une belle maison, c'est une maison pleine d'histoire, chargée de symboles, et Claude, je ne doute pas que vous vous sentiez aussi ici chez vous. Je crois que les visages et les expressions qui sont là attestent que vous êtes reconnu comme l'une des nôtres. Et donc, il était finalement naturel pour vous que la bénédiction sur ce couple dont le maire de Valence ou l'un de ses adjoints au mois de décembre a pu exprimer toute la vivacité sur le plan civil, nous puissions aussi nous en réjouir sur le plan spirituel. Voilà, c'est un choix décisif pour leur vie, ils ont voulu le partager avec nous, nous qui constituons donc pour eux une famille spirituelle. Notre communauté va donc pouvoir bénéficier de votre présence réjouissante, peut-être comme un témoignage que ce lieu, un temple, une église, un lieu de culte en général, est vraiment un lieu pour vivre, un lieu pour célébrer la vie, un lieu pour ressusciter la vie dans toutes ses dimensions, et bien entendu, la conjugalité est l'une de ces dimensions majeures. Nous vous en remercions et je crois que vous avez aussi quelques mots de remerciement à formuler.
Oui, chers amis, nous avons souhaité, Claude et moi, que la bénédiction de notre mariage se déroule en ce lieu, l'oratoire du Louvre, qui pour bien des raisons nous est particulièrement cher. Nous désirions également que cette cérémonie soit simple et qu'elle ait lieu le jour où une communauté paroissiale se rassemble pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait vivre, je crois que nous pouvons le dire, nous avions à cœur qu'elle soit partagée par les paroissiens de l'oratoire, partagée par nos familles, nos amis, par celles et ceux qui nous ont marqué tant de bienveillante attention tout au long de nos itinéraires respectifs, à Claude et à moi. Alors merci à l'oratoire de nous accueillir ce matin. Merci tout particulièrement à ses pasteurs, Marc Pernaud, merci à toi, James, toi qui nous as préparés, comme on dit. Et merci à vous qui êtes venus, parfois de loin, pour vivre avec nous ce moment de grâce. Merci à nos amis Olivier Deck, organiste, et Sidney Fierro, baryton. Merci à Aurélien Péter, et nous saluons enfin tout particulièrement nos amis ardéchois de l'église de Vernoux-Chalancon. La voici l'heureuse journée qui répond à son grand désir. Louons Dieu qui nous l'a donnée, et qu'elle soit notre plaisir.
Et nous allons nous unir dans l'expression de la foi avec ces mots, Claude et Richard, que vous avez choisis, que vous avez ordonnés pour qu'ils soient aujourd'hui notre profession de foi.
Nous croyons en Dieu. L'Éternel est un. Il est la vie, il est la lumière. Il a appelé les patriarches, les prophètes et les sages. Il a suscité le peuple de l'Alliance.
L'Éternel te bénit, il te garde. L'Éternel illumine ses faces vers toi, il te gracie. L'Éternel porte ses faces vers toi, il met en toi la paix.
Nous croyons en Dieu incarné en Jésus, le Juif, fils de Dieu et fils de l'homme, Christ. Il a donné sa vie et sa mort pour nous. Il nous appelle à la résurrection.
Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie puisque nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort.
Nous croyons en l'Esprit, souffle de Dieu. Il anime notre vie, il suscite nos rencontres, il nous ouvre à l'écoute de la parole et la fait agir en nous. Il nous fait travailler à l'avènement du royaume.
J'ai donné en face de vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, pour aimer l'Éternel, pour entendre sa voix, pour coller à lui. Oui, il est ta vie, la longévité de tes jours. Amen. Amen.
Je vous invite à prendre place pour prolonger notre profession de foi par un moment musical. Richard et Claude, je vous invite à me rejoindre près de cette table de communion et j'invite vos témoins à venir vous entourer. Voilà, venez ici pour que vous soyez visible de tous. Il ne faut pas se priver de beaux visages. Il est d'usage dans les bénédictions nuptiales de redire quelques mots sur le sens du mariage dans la Bible. Rappelez tout d'abord que dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. Et cette image de Dieu est une invitation à connaître sur la terre un véritable bonheur, le bonheur qui consiste dans l'union de deux sensibilités, de deux trajectoires, de deux spiritualités, de deux cultures qui se rencontrent et qui s'unissent. Oui, Dieu appelle l'humanité à vivre leur vocation au cœur du monde, au cœur de la création, et c'est bien le sens de ce que vous vivez. Alors les prophètes d'Israël ont vu dans la relation conjugale une sorte de métaphore de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et cette alliance nous dit à la fois le don et le pardon qui sont toujours appelés à constituer le cœur même, l'essence même de la vie conjugale. Le Nouveau Testament, à travers la figure de Jésus, insiste précisément sur cette gratuité, sur cet aspect inconditionnel. Et Jésus nous enseigne finalement ce qu'aimer veut dire, le sens de l'agapé, le sens de l'agapé qui porte l'amour dont nous sommes capables. Oui, les conjoints sont appelés à vivre de cette dynamique. Il est d'usage de dire que les jeunes mariés ont quitté père et mère pour s'attacher à leur conjoint. Bon, oui, cela est vrai, notamment pour eux. Mais plus important est de rappeler qu'il s'agit de fonder une histoire nouvelle. Et c'est bien là ce que vous célébrez aussi. L'histoire de votre foyer, l'histoire du fait que vous marchez désormais côte à côte dans le peuple que Dieu conduit. Il est dans la Bible une image, c'est celle de la tresse à trois brins, plus solide que la tresse à deux brins. Et nous pouvons peut-être y voir là l'image de la bénédiction qui est donnée sur les couples, cette transcendance qui vous rejoint, qui vous porte et qui renforce votre désir de vie commune. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue symbolique, je vais vous demander de joindre deux mains sur laquelle vient se tisser l'expression de l'altérité. Oui, Claude, Richard, Dieu qui est la source de l'amour, accueille le bonheur de votre couple. Il vous donne son esprit de lumière et de sagesse pour que vous le serviez ensemble, pour que vous soyez rayonnant de lumière pour ceux qui vous côtoient et que vous puissiez être agent d'une grâce surabondante en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Je vous invite maintenant à prolonger cet horizon qui s'ouvre devant vous avec quelques mots personnels qui seront donc vos engagements.
L'Évangile nous ouvre un chemin de foi. Nous avons confiance en l'avenir. Un chemin d'espérance. Nous avons envie de vivre. Un chemin d'amour. Nous avons le désir de vivre ensemble.
Oui, l'Évangile nous ouvre un chemin de foi et nous avons confiance en l'avenir, un chemin d'espérance, nous avons envie de vivre, un chemin d'amour et nous avons le désir de vivre ensemble.
Richard, je m'engage à marcher avec toi sur ce chemin.
Claude, je m'engage à marcher avec toi sur ce chemin. Que Dieu nous soit en aide.
Précisément, l'Éternel vous donnera la force, la persévérance de tenir ces engagements que vous venez d'exprimer devant cette communauté et que nous allons maintenant traduire par la signature du registre en profitant à nouveau d'un moment musical. Thank you. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 16 que nous allons entendre le début de ce récit qui évoque la manne. Je vous lirai le texte dans la traduction de Louis II et puis, prédication faisante, nous reviendrons sur quelques mots qu'il convient de retraduire. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. C'était le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse : Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu votre murmure contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? Moïse dit : L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron : Dis à toute la communauté des Israélites : Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit : J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes : Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, les cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné : Recueillez-en chacun ce qu'il lui faut pour sa nourriture, un homer par tête selon le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi. Et ils en recueillirent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui en avait plus n'avait rien de trop, et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Chacun recueillait ce qu'il lui fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit : Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Puis il nous est dit que ceux qui ont voulu garder de la nourriture jusqu'au lendemain voient que la nourriture pourrit. Et au verset 31, voici ce que nous apprenons. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières. Et le cantique 308 sera l'occasion pour nous de pouvoir méditer avant d'entreprendre la traversée de ce texte biblique. Cantique 308, les strophes 1, 3 et 4. Éternel, notre Dieu, dans l'agitation de la fête, aide-nous à faire silence en nous-mêmes et dirige nos pensées vers toi. Car c'est toi qui es source de toute bénédiction. Par ton esprit, dispose notre cœur à recevoir maintenant ta parole. Chers frères et sœurs, l'homme ne vivra pas seulement d'eau fraîche et d'amour. Ce texte nous l'apprend, il faut aussi de la manne, de la manne. Il faut de la manne pour atteindre la terre promise, cette terre qui représente ce moment de la vie où notre humanité est pleinement épanouie. Lorsque les textes bibliques disent que la terre promise, c'est ce lieu où nous pouvons louer Dieu, c'est une manière de suggérer que la terre promise, c'est ce moment de la vie où nous sommes en harmonie avec notre vocation, ce moment où peut-être nous découvrons l'âme sœur, ce moment où ce que nous vivons est en écho avec ce que nous pressentons devoir être vécu. C'est ce moment où nous prenons pied dans une existence véritablement humaine. Nous nous révélons à nous-mêmes tel que jusque-là, nous ne l'avions jamais éprouvé. Le peuple hébreu vient d'être libéré du pays où il était devenu esclave. Mais il doit encore cheminer pour atteindre la terre promise, pour devenir vraiment libre, libre d'être soi. Fini ce fil et la pète. Fini ce sentiment de nostalgie de l'époque où les marmites d'Égypte étaient pleines, et tant pis si nous subissions l'esclavage. Au moins, le ventre était repu, mais nous n'étions pas libres. Ici, il s'agit non seulement d'être libérés, mais de pouvoir aussi atteindre la terre promise, ce lieu où nous pouvons être nous-mêmes. Et c'est là que la manne intervient. La manne est ici une métaphore. C'est une nourriture pédagogique, en quelque sorte, destinée à nous enseigner comment cheminer vers la terre promise. Alors, si vous avez le sentiment de n'être pas encore tout à fait citoyen de la terre promise, si vous considérez que le royaume des cieux n'est pas encore pleinement accompli, bien peut-être que ce texte peut vous aider à découvrir quel est le cheminement nécessaire jusqu'à cet horizon heureux. Pour reprendre l'expression du texte biblique, la manne, qui est cette nourriture offerte par l'Éternel, permet d'éprouver l'homme. Le texte traduit par Louis II dit « Je vais les mettre à l'épreuve ». Il faut juste se souvenir que dans le texte hébreu, c'est le verbe « nasa » qui est employé. « Nasa », ça signifie « élever ». Et donc, c'est l'épreuve au sens d'élévation. C'est une épreuve pour élever et non pas une épreuve pour accabler, pour humilier, pour montrer la faute d'une personne. Élever le peuple hébreu, lui permettre d'atteindre un nouveau niveau d'existence. Voilà l'enjeu de cette nourriture en chemin, de cette pédagogie divine dont ce chapitre est la mise en récit. Mieux que cela, le dernier verset que je vous ai lu, le verset 31, nous apprend que la manne est comme une graine de coriandre. C'est ce que disent nos traductions. C'est une traduction un peu curieuse qui vient en fait de la Septante, traduite ensuite par la Vulgate, où le mot coriandre est venu remplacer le mot hébreu gad. Gad, dont nous avons une trace dans notre mémoire, parce que Gad, c'est l'un des fils de Jacob. Et au moment où Gad vient au monde, il y a une expression, c'est « quelle chance, quelle bonne fortune ». Et en fait, Gad, cela veut dire la chance, la bonne fortune. La manne a donc été comprise originellement dans sa rédaction hébraïque comme semence de bonheur. Ce que l'Éternel injecte dans notre histoire pour qu'elle prenne des nuances heureuses. Et à la manière du psaume 45 au verset 16 qui déclare au sujet de l'Éternel « Tu ouvres les mains et tu rassasies les vivants de toute volonté et non pas de nourriture », eh bien, ici, nous comprenons que la manne et ce que l'Éternel nous offre pour susciter de la volonté, pour ressusciter du désir. L'Éternel comme source du désir pour un peuple qui est peut-être encore trop lié à la période de servitude. Alors je vous propose de découvrir la manne à travers les trois caractéristiques que nous offre ce texte. La première caractéristique que je relève de la manne, c'est qu'elle est une parole quotidienne. Pour être au plus près du texte hébreu, au verset 4, ce que l'Éternel annonce à Moïse, c'est littéralement une parole du jour dans son jour. De bar yom, beyomo. Une parole du jour dans son jour. Chacun va avoir droit à une parole quotidienne. Une parole quotidienne pour le jour présent. Il n'est pas question d'une parole pour le futur. Au mieux, il y aura une parole qui tiendra deux jours pour respecter le Shabbat, mais cette manne est une nourriture quotidienne qui nous ramène dans le temps présent lorsque nous sommes peut-être un peu trop encore liés à une nostalgie d'un âge d'or ou d'un passé que l'on voudrait encore actuel. Cette manne est une nourriture quotidienne qui nous ramène au temps présent lorsque peut-être nous avons envie de nous enfuir dans le futur, dans des projets qui nous permettraient d'échapper aux réalités présentes. Cette manne est une nourriture pour nous ramener là où nous sommes. C'est une parole qui nous redit que c'est aujourd'hui que les choses se passent. C'est aujourd'hui que nous devons nous investir. Il y a même peut-être une sorte d'urgence à vivre exprimée dans ce texte, qui dit que cette parole quotidienne, demain, elle aura pourri. Et c'est la raison pour laquelle un mariage est un événement qui se vit dans le présent et qui redit l'urgence qu'il y a à vivre dans le présent et non pas à reporter toujours au lendemain ce qui d'ores et déjà peut être éprouvé. Cette manne inscrit la parole dans le jour présent. Elle ne dit pas que tu as à attendre des jours meilleurs. Cette manne dit que c'est maintenant que cela se joue pour toi, que c'est aujourd'hui que tu peux être entièrement rassasié de vie. Et c'est chaque jour que chacun est en droit de bénéficier de son pain quotidien. C'est chaque jour qu'il faudra redire oui, chaque jour qu'il faudra redire je m'engage avec toi sur ce chemin. Chaque jour, la parole fait poindre cette aurore où nous sommes appelés à la vie. À chaque jour sa parole, c'est la volonté divine et c'est notre droit. Nous avons droit à une parole quotidienne. Nous avons droit à ce qui a le goût du miel et qui ressuscite notre désir, qui ressuscite notre volonté. C'est un droit inaliénable. Chaque jour, nous avons droit à cela. Nul ne devrait être privé d'une parole qui le tire de la nuit de la consommation pour le faire entrer dans l'aurore de l'être, être soi. Cette manne, cette parole, certains en recueillaient plus, d'autres moins, mais chacun recueillait ce qu'il lui fallait. Tout excès, tout surplus venait à pourrir, dit le texte. Voyez comme la manne est pédagogique. Elle nous enseigne la juste quantité. Elle montre qu'une société décente est soucieuse de la juste quantité et qu'elle veille à ne pas gâcher. Ici, il n'est pas question d'un égalitarisme où tout le monde devrait être logé à la même enseigne. Certains ont plus de besoins, ils reçoivent plus. Certains ont besoin d'être plus aidés que d'autres, ils reçoivent plus. La juste quantité s'élabore en fonction des besoins et non en fonction des envies. C'est l'apprentissage du discernement. Apprendre ce qui nous est nécessaire pour ne pas prendre plus que ce dont nous avons besoin. Il y a là une économie responsable si nous y prenons garde. Une économie responsable qui ne voit pas dans la consommation excessive une manière d'exister. Et dans une certaine mesure, ce texte pourrait même fonder l'idée d'une sobriété heureuse, la juste quantité. C'est quasiment l'éthique protestante qui nous dit qu'il faut finir son assiette et que nous n'avons pas besoin de nous encombrer de ce qui ne nous est jusqu'à être un peu dans le registre du m'as-tu vu. La simplicité, la sobriété heureuse. Le deuxième aspect que je relève est la solidarité qui se tisse par l'intermédiaire de la manne. La manne provoque de la solidarité. Il n'est pas question de se servir égoïstement, en oubliant les autres. Les absents sont bel et bien présents dans le recueil de la manne. Une véritable solidarité s'instaure entre ceux qui peuvent recueillir la manne et ceux qui sont dans la tente, dit le texte. Autrement dit, ceux qui sont empêchés, sans que l'on sache ce qui les retient. Peut-être ont-ils de bonnes raisons, peut-être ont-ils de mauvaises raisons, peu importe. Ceux qui ne sont pas là, physiquement présents, auront droit aussi à leur parole quotidienne. Là où il serait possible pour certains de voir de l'assistanat, le texte biblique voit une solidarité nécessaire. Ce que nous recevons de Dieu n'est pas à garder jalousement pour nous. Pour reprendre les termes du pape François, il s'agit de sortir de nos enceintes pour pouvoir porter la miséricorde et la tendresse de Dieu. De même que la vie de couple ne consiste pas à cultiver l'entre-soi, autrement, non seulement la cérémonie serait ultra privée, mais ensuite il y aurait une sorte d'engagement à ne pas avoir de vie sociale. Eh bien, de même que la vie de couple est un engagement à faire rayonner autour de soi l'amour qui unit, la vie croyante, c'est l'art de propager alentour ce qui rend la vie bonne, heureuse et harmonieuse. Il y a dans ce passage, et dans d'autres textes bibliques d'ailleurs, cette conscience que ce que nous avons de plus essentiel, ce qui compte le plus pour nous, ce qui a valeur d'absolu, nous l'avons reçu. En revanche, ce que nous avons construit, ce que nous avons acquis, n'est que secondaire par rapport à ce qui est ultime. D'ailleurs, le fait que la manne ne soit pas dans le camp, contrairement aux cailles dont Flavius Josèphe, dans les Antiquités bibliques, disent qu'elles étaient en transhumance et puis fatiguées, elles se sont posées généreusement dans le camp, ignorant quel est le sort qui allait leur être réservé. Eh bien, la manne est autour du camp. La manne nous oblige à sortir de notre entre-soi. La manne est en quelque sorte l'indication qu'il faut aller jusqu'aux frontières de notre existence, nous tenir sur le seuil et ne pas rester dans le cœur protégé d'une existence coucounée. Ce passage biblique devient un impératif à sortir de notre état. Et cela va être particulièrement sensible avec la troisième caractéristique de la manne. Le troisième aspect de la manne est le plus important certainement, tient au nom même que la mémoire collective lui a attribué et dont l'explication est donnée en cours de route au verset 15. Lorsque les Hébreux virent la manne pour la première fois, ils s'interrogèrent et se demandèrent ce que c'était. Le texte hébreu précise qu'ils dirent « manne ou ». Quoi ça ? Quoi ça ? C'est la question de l'enfant. Moi, en tous les cas, nos enfants disaient « quoi ça ?» dès qu'ils étaient face à une situation qu'ils n'avaient encore jamais connue jusque-là. C'est la question de l'enfant qui découvre une chose, une situation, et qui se demande ce que cela peut bien être. Quoi ça ? Manne ou ? La manne est un inattendu. Elle suscite le questionnement et va justement prendre le nom du questionnement. La manne, c'est du quoi ça ? Pour accéder à la terre promise, les Hébreux se nourriront donc du questionnement. Et c'est bien par cet esprit d'enfance qui questionne, qui interroge, que les Hébreux pourront entrer en terre promise. Jésus, pour sa part, ne dira pas autre chose au sujet du royaume des cieux, qui est pour ceux qui leur sont semblables, une métaphore chassant l'autre. Si nous nous souvenons que nous sommes ce que nous mangeons, cet épisode de la manne indique que les Hébreux, en se nourrissant du quoi ça, deviennent eux-mêmes quoi ça. et ce n'est pas une invention personnelle. Le texte hébreu le porte lui-même. Par deux fois, au verset 7 et au verset 8, Moïse le dira explicitement. Wenar nous ma, et nous quoi ? Nous sommes quoi ? Nous sommes du quoi ? Nous sommes du questionnement, nous sommes de l'interrogation. Notre essence, c'est le questionnement. Peut-être est-ce pour cela que souvent, lorsqu'on interroge un pasteur, il répond par une autre question. C'est parce que c'est l'être même du croyant que le questionnement. Comme le disait Maurice Blanchot, le malheur de la question, c'est la réponse. L'être croyant, c'est le questionnement. Et le croyant ne laisse pas son entourage indifférent. Il devient lui-même une question. Il met en question. Il met en question ce qui semble acquis, il met en question ce qui semble défini, définitif. Le questionnement vient réveiller. Il vient réveiller le quiétisme. Il interroge l'ordre établi. Il interroge les situations de connivence, ce qui semble éternel. Le questionnement récuse. Il récuse les évidences communément admises. Il relativise les savoirs, surtout lorsqu'ils se prétendent absolus. Mieux que cela, le questionnement traduit un étonnement. Quoi ça ? Un émerveillement. Quoi ça ? Qui est à l'origine de la démarche philosophique, qui engage l'homme dans la pensée et dans le mouvement. Le questionnement nous ouvre sur plus grand que nous-mêmes, sur ce qui est là et dont nous ne sommes pas la cause. Une personne est là devant nous, elle fait figure d'altérité, elle devient figure de la transcendance. Il y a quelque chose de plus grand que nous, dont nous ne sommes pas la cause. Le questionnement nous ouvre sur la transcendance, il nous ouvre sur l'infini. Une manne est une chose limitée par la quantité, est une chose illimité par la qualité. C'est le questionnement infini. Pensons à Jésus et à Marie. Lorsqu'ils sont à un mariage, eux aussi, c'est à Cana, dans l'évangile selon Jean. Marie dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus lui répond, « Femme, quoi entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Quoi entre toi et moi, littéralement. Femme, ce n'est pas désobligeant. Gunée, c'est au vocatif, c'est au contraire très déférent. C'est une marque de délicatesse. Femme, quoi entre toi et moi ? Oui, souvent, on a pris ça comme un propos désobligeant. Jésus qui voudrait rabaisser sa mère, en ajoutant en plus, mon heure n'est pas encore venue, je sais quand même mieux que toi ce que je dois faire. Et si nous l'entendions autrement, grâce au récit de la manne ? Peut-être est-ce le fils qui est surpris par la parole de la mère. Ma, quoi ? Quoi ça ? Qu'y a-t-il entre toi et moi pour que ta parole trouve un tel écho en moi ? Comment se fait-il que je sois soudainement bouleversé par ce que tu me dis, moi qui pensais que mon heure n'était pas encore venue, alors que c'est une parole pour mon quotidien, pour mon présent, d'ores et déjà ? Et c'est effectivement sur le champ que Jésus indiquera aux serviteurs ce qu'il faut faire. Car c'est aujourd'hui qu'est la noce. C'est aujourd'hui que nous célébrons la vie. C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous réjouir et vivre de toute notre âme. Voilà ce que nous enseigne la manne. Amen. la métaphore de la sortie d'Égypte succède la métaphore de la sortie du tombeau à Pâques. Le cantique 354 sera l'occasion pour nous de continuer cette dynamique. Les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique 354. Quelques informations à partager dans notre agenda. À l'issue du culte, le plus simple serait que vous posiez les recueils de chants sur la chaise qui est sur l'allée centrale, hein, que vous les rassembliez tous au bout des rangées. Il y a Marc Verstraat, qui est notre conseiller de service aujourd'hui, qui se tiendra près du banc des conseillers. Si quelqu'un parmi vous a une question sur la vie de l'Église, sur l'organisation, si vous êtes un nouveau venu et que vous souhaitez avoir quelques renseignements, il se tiendra à votre disposition. À l'issue du culte, les portes de la grande sacristie s'ouvriront. Il y a le temps d'accueil du dernier dimanche du mois. Et au comptoir librairie, où nous vous invitons à faire quelques achats compulsifs, bien sûr, Vous aurez l'occasion de vous inscrire auprès de Philippe Bertrand pour le repas paroissial qui sera préparé dimanche prochain, premier dimanche du mois. Donc, de façon à aider l'équipe de préparation, indiquez votre présence au comptoir librairie. Ce sont les congés, donc pas d'activité paroissiale. Le culte dimanche prochain à 10h30 sera célébré par Marc Pernaud. Et donc, vous avez vraiment toute latitude pour pouvoir lire. Lire, c'est ce que vous pourrez faire aussi, Claude et Richard. Il est dans l'usage de la tradition de la Réforme d'offrir une Bible aux jeunes mariés. Bon, là, la seule façon, c'était d'aller en voler une à la Bibliothèque nationale de France dans une édition invraisemblable. Donc, j'ai opté pour autre chose. C'est cet ouvrage, Temple réformé et Église luthérienne de Paris, pour deux raisons. Tout d'abord parce que ce sont des paroissiennes de l'Oratoire qui l'ont rédigé. L'Oratoire a coproduit cet ouvrage, il est d'ailleurs en vente au comptoir librairie. Et il y a de belles découvertes à faire. Des « quoi ça » à dire. À titre personnel, c'est une sorte d'invitation. Un jour ou l'autre, il faudra bien que Richard songe à un autre poste pastoral. Eh bien, voilà un peu le menu, en quelque sorte. Et donc, ne tarde pas trop à te demander « quoi ça ?» Bien. C'est maintenant le temps de l'offrande. Eh bien, que notre trésorier, en voyant le montant de l'offrande, se dise « Quoi, ça ? C'est la manne !» Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, qu'elle semble loin cette terre promise, qu'il semble inaccessible ton royaume. Mais il y a la manne, il y a ta manne, cette parole qui jour après jour nous ouvre les yeux sur la vie. Nous avons à cœur d'ouvrir les yeux sur les situations difficiles, les personnes malades, les personnes qui sont atteintes dans leur santé, les personnes marquées par le deuil, par l'horreur, l'inexplicable. Il y a ta manne, cette parole qui nous encourage à la fraternité active. Nous avons à cœur d'être solidaires de ceux qui sont seuls et qui en souffrent. Il y a ta manne qui remet en question nos points d'arrivée qui ne sont que des étapes intermédiaires, nos certitudes qui ne sont que des réponses temporaires. Nous avons à cœur de ne pas laisser celles et ceux qui n'ont pas le bonheur de connaître une vie harmonieuse, celles et ceux qui n'ont pas le bonheur de connaître une vie de couple réjouissante. Aide-nous à nous souvenir des couples qui ont placé leur mariage sous ta bénédiction, afin que soit renouvelée en eux la flamme de ton amour. Il y a ta manne. Il y a ta manne qui élève notre humanité, qui ressuscite notre désir, qui creuse notre appétit de vivre. Avec Richard et Claude, que nous soyons de ceux qui portent secours, consolent et font œuvre de paix et de réconciliation. Et nous unissons nos intentions de prière dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.